franceinter.fr.
Le best-of de la tête au carré. Lundi, le chamanisme est partout. Mais pourquoi ? Avec Roberta Maillon, spécialiste du chamanisme de Sibérie.
Ça désigne des réalités tout à fait différentes. Alors c'est justement un challenge pour la recherche que d'essayer de comprendre d'abord le trajet qu'a fait ce terme, pourquoi on en est arrivé à considérer les choses comme ça, pourquoi ça s'est répandu aujourd'hui jusque dans nos sociétés, pourquoi nous avons réinterprété ce terme. On a recherché dans le passé occidental des personnages qui pouvaient ressembler à ce pauvre chaman sibérien qui lui, il essaye d'avoir de la chance à la chasse, donc c'est tout. Et finalement, on a fait Jésus chaman, Socrate chaman, Merlin l'enchanteur chaman, enfin, si vous voulez, tout le monde est un peu chaman, et je peux vous dire qu'il y a eu une thèse sur les rituels chamaniques de la communauté européenne de justice.
Ah oui, carrément.
Oui, en 2010.
Donc on met du chaman à toutes les sauces, finalement.
On met du chaman à toutes les sauces. Ouais. Vous pouvez trouver dans le journal, il a fait un grand geste chamanique. Alors, vous ne savez pas trop de quoi, à quoi ça ressemble, mais on met du chaman à toutes les sauces.
C'est-à-dire qu'on peut croiser des chamans à Paris aussi, par exemple ?
Alors, vous savez, les gens peuvent se dire chaman. Qu'est-ce qu'ils ont de chaman ? On peut essayer de comprendre, enfin, de se demander, au moins de poser les questions, pourquoi ils utilisent ce terme ? Alors, on peut voir plusieurs raisons tout de même. D'abord, la coïncidence avec le déclin des grandes religions. Il n'y a pas de dieu dans le chamanisme, il y a des esprits et l'idée, c'est des esprits de la nature, du monde naturel surtout, et l'idée c'est quand même que le chaman peut arriver à obtenir quelque chose d'eux. Il n'est pas soumis à un dieu dont il doit faire la volonté. Donc il y a une position subversive sur le plan religieux. Il y a aussi une position écologiste très forte. Les Sibériens se prétendent les précurseurs de l'écologie d'une manière générale, parce que finalement, étant des gens qui vivent de chasse, ils prennent soin de la forêt, ils ne détruisent pas les espèces qui y vivent parce qu'ils ont besoin que le gibier se reproduise. Et donc, ils ont aussi une très grande préoccupation des ressources de la planète et de leur préservation. Donc, ce côté retour à la nature et écologie. Et puis, j'en verrai un troisième qui est une question de responsabilité personnelle et de prise en charge tout à fait pragmatique de son propre destin. Ça va avec les deux autres, d'ailleurs. Mais je vais me débrouiller.
Mardi, qu'est-ce qu'une forêt en bonne santé ? Peter Vollenben, auteur de La vie secrète des arbres.
Une forêt en bonne santé est une forêt que l'homme n'a pas trop dérangée. Mais en France comme en Allemagne, depuis l'époque des Romains, on est beaucoup intervenu dans les forêts. Nous avons trop peu d'arbres âgés. On peut dire que nos forêts sont peuplées, si on peut dire, de gens qui auraient entre 20 et 30 ans, en comparaison. La pyramide des âges n'est pas équilibrée.
C'est ça. C'est le problème, d'ailleurs, peut-être dans cette relation entre les hommes et les arbres, c'est la lenteur qui caractérise avant tout la croissance des arbres, parce que les humains n'attendent pas, évidemment, que l'arbre aille à son terme, parce qu'il faut attendre des centaines d'années, hein.
C'est exactement le problème. Voilà, la jeunesse d'un arbre, c'est 200 ou 300 ans. C'est seulement après que les arbres deviennent adultes. Et ce qui est idiot, c'est qu'à des époques où la rentabilité est importante, on attend qu'en moyenne 70 ans avant de couper un arbre. Et donc on prive les arbres de leur développement naturel.
Ça veut dire, alors ça vous l'expliquez très très bien, que les jeunes arbres, donc les juvéniles, doivent attendre parfois 200 ans sous leur mère avant de pouvoir s'exprimer enfin un jour et accéder vraiment à la photosynthèse.
C'est pareil dans le monde entier. C'est pareil en Europe centrale, au Brésil. Cette longue attente est dangereuse pour les arbres. Et cet entrelacement des racines avec celles de l'arbre mère est souvent détruit. Oui, les arbres sont allaités, pour ainsi dire, comme des mammifères.
Jetzt kann man sagen, na ja, das ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt.
Oui, on peut dire, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est trop anthropomorphisé.
Aber das ist eine Forschung der Universität von Vancouver,
dass il y a eu une étude de l'université de Vancouver qui montre que les arbres mères reconnaissent les racines de leurs rejetons.
Und die dann gezielt mit Zuckerlösung unterstützen.
Et qu'elles leur fournissent très volontairement des solutions de glucose.
Mercredi, le syndrome de Calimero, qu'est-ce qui se cache derrière la plainte permanente? Avec Saviero Tomasella.
La plainte a plusieurs fonctions, ça peut être « regarde-moi, regarde comme je souffre ». Finalement, si on n'arrive pas à être intéressant en étant brillant intellectuellement, ou en faisant du sport, ou en étant, je ne sais pas, en ayant une collection de ci ou de ça, on peut attirer l'attention sur soi de façon très puissante, par la plainte. Donc il y a cette fonction-là. Il y a la fonction aussi de faire parler de soi. Donc c'est pas tellement le regard, mais c'est faire parler de soi parce qu'on n'arrive pas à être reconnu autrement. Mmh. On aimerait l'être professionnellement, on aimerait l'être dans sa famille, mais on n'arrive pas à être reconnu. Il y a aussi une autre fonction qui est d'exprimer le cinéma familial ou le théâtre familial, c'est-à-dire des drames qui ont eu lieu dans la généalogie, mais qui sont restés secrets ou dont on n'a pas tellement le droit de parler. Donc là, il y a un déplacement sur une plainte qui fait office d'expression d'un mythe familial.
Ouais. Ça veut dire que quand on creuse, on s'aperçoit et on peut tomber justement sur un secret de famille, par exemple. Ça vous est arrivé.
C'est ça qui est très intéressant, c'est que derrière la plainte, en tout cas une plainte qui s'installe, qui n'est pas une plainte factuelle et ponctuelle, il y a toujours un roman familial, une histoire personnelle, quelque chose qui n'arrive pas à se dire autrement. Et effectivement, en creusant, on tombe sur des secrets, sur des deuils qui n'ont pas été faits, sur des catastrophes, sur des choses qui ont été vécues dans la minimisation. Hein. Je pense par exemple à la guerre d'Algérie ou aux rapatriés d'Afrique du Nord, où on a voulu minimiser la dureté de ce qu'ils ont vécu, et où en fait, une génération après, par exemple, ça va sortir sous forme de plaintes continuelles.
Mmh. Lorsque Françoise nous dit sur franceinter.fr s'il y a des bénéfices secondaires à être Calimero, vous y avez déjà un petit peu répondu, dans ses fonctions de la plainte justement, celle d'attirer l'attention à soi, de produire un peu de compassion aussi.
Voilà, il y a des bénéfices, il y a des avantages à se plaindre, mais aussi ça peut être simplement demander de la bienveillance, demander de l'attention et de l'empathie pour des personnes qui, pendant une période de leur vie, notamment l'enfance et l'adolescence, n'ont pas reçu assez de sollicitude et dont on n'a pas fait assez attention.
Jeudi, la vérité en mathématiques. 1 plus 1 est-il toujours égal à 2? Avec Jean-Jacques Cessignarc et Hugo Duminil-Copin.
Vous savez, 1 plus 1 égale 2, c'est pas tout le temps vrai non plus, ça dépend dans quel
domaine
vous
trouvez. Alors c'est ça, j'allais vous dire, est-ce que ça rentre dans la catégorie tout à l'heure incontestable qui fait consensus chez les mathématiciens?
Alors 1 plus 1, ça peut valoir 0.
Alors voilà. Donc là, badaboum.
De façon très...
exemple d'une vérité qui s'écroule. Oui, tout c'est à ça
fait. Ouais. Mais c'est pas qu'elle s'écroule, c'est qu'elle est en fait un peu naïve. Et on peut la transformer en une vérité qui est plus subtile, plus avancée. Voilà. Et dans lequel 1 plus 1 égale 0 donne tout son sens. Et en fait, on se rend même compte qu'il y a une utilité, dans certains cas, à dire que 1 plus 1 vaut 0.
Oui, Jean-Jacques Cessignarc.
C'est un système binaire, enfin, etc. Vous pouvez donc... mais si vous voulez, ça veut dire que la vérité mathématique, eh bien, elle est locale. Elle est locale et simplement, le progrès mathématique consiste à localiser les vérités dans un domaine, de montrer qu'elles sont conditionnées par le domaine dans lequel elles s'énoncent. Mmh. Comme la géométrie non euclidienne, ça veut pas dire que la géométrie euclidienne est fausse, ça veut dire simplement que dans le domaine précis de la géométrie euclidienne, du plan euclidien, tous ces théorèmes qu'on connaît sont vrais. Mais si vous vous placez dans un autre domaine, la sphère ou bien d'autres domaines, à ce moment-là, c'est d'autres théorèmes qui seront vrais. Mais il n'en reste pas moins que, si vous voulez, les déductions qu'on effectue dans chacun de ces domaines sont d'une grande rigueur.
Oui. C'est vrai que je trouve que ce 1 plus 1 égale 2, il illustre bien aussi la façon dont on peut percevoir les mathématiques comme la reine des disciplines. Je crois que c'est Gauss, qui est un mathématicien astronome du 18e, qui avait dit, voilà, les maths, c'est vraiment la reine des sciences, l'arithmétique est la reine des mathématiques, je le cite. C'est vrai qu'avec des formules comme ça, 1 plus 1 égale 2, on est rassuré, au fond. On a une vérité imparable. Or, vous nous dites que précisément, c'est pas le cas du tout.
Non, c'est pas tout à fait ça. Il faut juste voir. Les mathématiques, c'est dépasser la notion de vérité qu'on a comprise jusque-là. Oui. C'est systématiquement la dépasser. Ça veut pas dire la détruire. Ça veut dire l'incorporer dans un corpus plus grand de vérité, etc. Donc, 1 plus 1 vaut 2, effectivement, dans le...
On est d'accord.
Tout à chacun.
Vous remettez pas ça en cause.
Quand les gens utilisent 1 plus 1 égale 2, ils ont raison de le faire. Mmh. Par contre, ça ne veut pas dire que dans certains cas, auxquels ces gens-là ne sont pas confrontés, 1 plus 1 égale 0 peut être une notion extrêmement intéressante pour un ordinateur, par exemple.
Retrouvez l'intégralité des émissions en podcast sur franceinter.fr à la page de la Tête au Carré.